Maintenant, je préfère faire de la bande dessinée. Je trouve qu'on peut tout faire en bande dessinée. Là où en animation, on est un peu plus limité. Et surtout, c'est un travail dantesque avec une équipe. C'est toujours fabuleux, l'animation. Mais peut-être que c'est moins ce que j'aime en ce moment.
Ishemima est la première bande dessinée éditée de Jules Naleb. Après une carrière dans l'animation, il a souhaité se tourner vers la bande dessinée. Pour une première histoire, il plonge les lecteurs dans une aventure de science-fiction teintée de romance, bien loin des clichés de la SF noire et post-apocalyptique classique. Ishemima, la première bande dessinée de Jules Naleb, un reportage d'Explore le Mag, à la prise de son et au mixage Frédéric Mineur. Explore le Mag est un média en ligne. Retrouvez l'intégralité de nos reportages sur exploremag.fr.
Salut, c'est Jules Naleb pour Explore le Mag. Je suis Jules Naleb, je suis un nouvel auteur de bande dessinée, entre guillemets, on va dire. Moi, j'ai d'abord commencé par des études d'animation à l'EMCA, qui est l'école juste derrière. Et puis après, j'ai fait presque 10 ans de travail en tant que technicien de l'animation. Dans différents postes, sur différents projets. Le dernier gros truc que j'ai fait, c'était Scavenger's Reign. Je faisais du storyboard et du développement visuel. Je suis originaire de Bordeaux. J'ai commencé des études aux Beaux-Arts là-bas. Puis après, j'ai un peu bourlingué et je suis revenu plus tard. J'avais 21 ans à Angoulême, à l'EMK, quoi. Voilà. Mais je suis originaire du coin, on va dire. J'ai choisi de me diriger vers l'animation parce que j'avais une conversation très... pragmatique mais aussi très importante dans ma vie avec ma mère qui m'a dit c'est super que tu veuilles faire du dessin, donc elle a toujours été très encourageante, mais tu sais que tu vas pas gagner des milliers de cents avec ce métier. Donc moi je me suis posé la question, j'ai envie de faire du dessin dans ma vie, quelle est la meilleure porte d'entrée pour avoir un salaire et pouvoir vivre correctement, quoi. Et donc en fait à ce moment là l'animation c'était vraiment le truc qui m'attirait le plus, et donc évidemment je suis fan d'animation aussi, hein, on va pas se le cacher, et donc c'était super pour moi de coupler un peu les deux. Je pense que le cadre de l'animation il est très bien parce que c'est aussi ça demande une rigueur et on apprend beaucoup. En tout cas moi je pense que j'ai vraiment fait mes armes à travers ces 7-8 ans de boulot dans l'anime. Maintenant on est quand même soumis à aussi beaucoup de pression et je pense qu'il y a des contraintes à respecter, et j'ai pas du tout le bagage nécessaire pour être réalisateur et faire les projets que je veux, alors qu'en bande dessinée je peux faire les choses un peu plus dans mon coin et je suis libre de faire ce que je veux à dans la mesure où ça convient à l'éditeur avec lequel je travaille, ou alors si ça va dans la direction du projet. Ça représente presque une reconversion pour moi de faire de la bande dessinée, même si c'était un peu le rêve de gamin que j'avais de faire ça. J'avais quand même très envie de faire de la bande dessinée, j'ai toujours été très amateur de bande dessinée, j'ai beaucoup d'amis qui font ça. Et donc en parallèle, je faisais mes petits projets comme ça. Entre 2021 et 2022, j'ai décidé de prendre un peu le taureau par les cornes et de développer un peu mon projet que j'avais écrit depuis longtemps et de lui donner un peu une forme. Maintenant, je préfère faire de la bande dessinée. Je trouve qu'on peut tout faire en bande dessinée. Là où en animation, on est un peu plus limité. Et surtout, c'est un travail dantesque avec une équipe. C'est toujours fabuleux, l'animation. Mais peut-être que c'est moins ce que j'aime en ce moment. Peut-être que c'est aussi un petit luxe de pouvoir faire ce choix, mais de me tourner vers autre chose, quoi. En parallèle, j'étais approché par Romain des éditions Kinaï, qui était curieux de faire un projet avec moi. Et donc, en fait, de fil en aiguille, s'en est venu à convenir de faire ce livre ensemble, quoi. Je pense qu'il n'y a pas réellement un processus de bande dessinée. J'imagine que chaque auteur et autrice a un peu sa propre sauce, un peu ses propres secrets. Pour ma part, ça a d'abord été d'écrire un script ou toute une trame narrative à partir de laquelle je pouvais en fait piocher des éléments de scène ou quoi pour pouvoir commencer à faire des recherches visuelles, recherches de personnages, et puis après détailler de plus en plus. Moi, depuis un certain moment, je remplis un carnet avec des idées, je me dis « Ah, ça pourrait être chouette, ça pourrait être chouette. » Et au final... j'ai essayé de tout agencer pour que ça fasse un monde cohérent. Donc ça, c'est un peu la genèse du projet. Quand Kinaï m'ont approché, l'idée, c'était d'écrire une romance. Et en fait, moi, j'avais ce monde Écrire une romance, ça me plaît beaucoup parce que j'ai toujours été très attiré par toutes les histoires d'amour, tout ça, même au sein d'un genre plus classique que l'aventure ou la science-fiction. Et donc, en fait, coupler les deux, ça a fait que j'ai créé de toutes pièces à ce moment-là Ish et Mima pour qu'ils puissent exister dans ce monde en tant que couple déjà installé, quoi. Et ensuite, ben, c'est vrai que moi, je tire beaucoup d'influence du manga parce que c'est des choses que je lis depuis que je suis gamin. Il y a des trucs que j'ai donné à la fin parce que One Piece, ça a été ma grande découverte de 2023. Moi, je connaissais pas avant. Enfin, je connaissais de loin, évidemment. Mais en 2023, je me suis vraiment attelé à la tâche de lire et regarder One Piece. Et c'était super. C'était un super voyage. Et pendant la fabrication du bouquin, je regardais Cowboy Bebop avec un ami. Et donc ça aussi, ça a beaucoup servi dans l'inspiration. Et je suis très fan de Naruto. Donc il y a, je pense, dans les combats, beaucoup de Naruto. Il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. Moi, je suis très inspiré par le travail de Miyazaki. Je pense que ça se sent beaucoup à travers ce livre. J'essaye de m'en affranchir, enfin en tout cas de rester inspiré, mais de moins copier, entre guillemets. J'en parle souvent du le travail de Léa Muravier, que je trouve super. En tout cas, c'est un peu comme ça que je travaille. C'est un gros bloc de marbre, et qu'au début on le sculpte très grossièrement, et puis on se dit ah mais tiens, peut-être qu'en fait là je rajouterai un petit détail, et donc on revient sculpter en précision, et au fur et à mesure on fait ça un peu partout, et à la fin ça devient un livre, une bande dessinée. Je pense pas que ce soit la méthode la plus courante ou que ce soit la méthode, mais en tout cas, c'est la mienne. L'important, c'est qu'à la fin, il y a un résultat fini, quoi. Ish et Mima, c'est mon premier projet BD édité. J'ai fait plusieurs autres petits projets de BD qui ont été soit en auto-édition, soit dans des recueils collectifs ou des maisons d'édition indépendantes. Ces premiers projets, ils m'ont permis de me jeter à l'eau, parce qu'il y a un moment où on se dit... j'aimerais faire ça, ça serait super de faire ça. Et en fait, en faisant plein de petits projets à côté, ça permet aussi de tester, de se planter, de recommencer, ou même de réaliser que bah, peut-être en fait c'est pas ça que j'ai envie de faire. En tout cas, celui-là, il est édité, distribué. C'est un très grand projet en fait. Tout ce que j'avais fait avant, ça tournait autour des 50 pages. Là, on est quand même sur un peu plus, quoi. En ce moment, j'ai l'impression que j'ai un nouveau regard sur le bouquin, et donc je le pitch différemment de comme il avait été pitché au début, donc peut-être c'est pas bien. Mais en tout cas, ce qui est écrit sur la quatrième de couverture, c'est « Ish et Mima forment un couple très lié dans la ville-usine de Dreib, gérée d'une main de fer par la reine Niwolin. Un jour, ils décident de s'enfuir et tombent nez à nez avec un score. Ces anciens dieux sont censés avoir été exterminés par le père de Niwolin. Mais une légende raconte que certains rescapés vivraient encore dans un lieu perdu et paradisiaque, l'Uzil. » Ça, c'est un peu ce qui est écrit en quatrième de couverture. Moi, ce que je raconte surtout, c'est que c'est une histoire de la quête de soi où on suit un jeune couple, jeune dans le sens où ils sont jeunes, mais en fait, ils s'aiment déjà. Et ils partent un peu à la recherche de qui ils sont à travers le voyage, à travers les rencontres et aussi... porté par ce dieu supposé disparu à qui ils vont essayer de trouver un lieu de paix, quoi. Voilà. Ce sont des choses qui font écho à mon vécu aussi, donc c'est important. J'ai un peu suivi le fait d'aller à Paris pour bosser pour l'animation, et puis en fait je me suis heurté à un mur parce que je me suis rendu compte que cette ville elle me convenait pas, et que bah, y avait la possibilité peut-être d'aller vivre ailleurs, un peu plus isolé, un peu plus dans le calme et compagnie. Et finalement, entre-temps, après mes études, quand on a été à Paris, je suis revenu de temps en temps à Angoulême voir les amis. Et en fait, il était là, le petit bonheur, quoi. Le secret le mieux gardé de France, c'est de vivre avec pas loin de ses amis, là où on est bien, quoi. C'est une histoire qui est racontée, Ish et Mima, et qui n'est pas une histoire du présent. Comme dans toutes les introductions de contes, on nous explique un peu le contexte. Je voulais un peu prendre ça, utiliser un peu la même démarche, quoi. Voilà, ça ne va pas plus loin. J'ai peur que si j'avais un peu plus disséminé de la légende au fur et à mesure du livre, peut-être ça aurait perdu le lecteur ou la lectrice et qu'on se soit... pas tellement attardé dessus, quoi. En tout cas, moi, je voulais faire une introduction qui soit comme un conte. Je pense que c'est un peu libre à l'interprétation de chacun. Pour moi, c'est la vieille du village qui raconte ça aux enfants du village et qui leur raconte le conte de Ish et Mima. Mais ça peut ne pas du tout être perçu comme ça, et c'est pas grave. En tout cas, c'est comme ça que je l'avais imaginé, mais j'ai pas insisté dessus. Ça a même d'ailleurs été un questionnement quand, au moment de l'écriture, quand j'en parlais avec l'éditeur. Moi, j'avais très envie que ce soit comme ça raconté. En fait, le ton au présent, c'est mieux. Quand on lit surtout un bouquin où il y a un peu d'action, il y a un peu d'aventure comme ça, c'est mieux si c'est au présent. Je pense que si j'avais voulu insister sur le fait que c'était en fait raconté au passé, j'aurais pu disséminer des indices, ce que j'ai un peu fait, mais pas tant que ça. L'intérêt pour moi avec ce livre, ou en tout cas de créer une structure entre guillemets simple, c'était de pouvoir être à l'aise après pour le dessin, parce que comme c'est un premier album, y a des choses sur lesquelles il fallait que j'ai un peu de certitude pour pas juste être sur un terrain glissant pendant toute la fabrication du bouquin. Donc c'est, en tout cas pour moi, c'était important de construire les étapes de la quête initiatique vraiment qu'elles soient marquées. Donc j'ai même mis un chapitrage dans le livre pour que le lecteur ou la lectrice soit vraiment « Ok, donc prochaine étape, on va à la suite, on va à la suite ». J'avais envie de pouvoir mettre un peu de situation, de la légende, tout ça, même si ça en fait prend pas tellement part au récit, c'est plus pour un peu poser les bases du monde. J'espère que c'est assez clair, en tout cas dans l'histoire, que ils évoluent, les personnages évoluent au fur et à mesure, et qu'à la fin ils sont changés, parce que dans la quête initiatique, c'est un peu ça le principe, quoi, c'est qu'ils deviennent différents à la fin. Ce que je voulais faire un peu de différent de la quête initiatique, c'est qu'à la fin ils font un choix. On leur propose le paradis, en quelque sorte, mais eux, ils ont trouvé un autre paradis avant dans lequel ils étaient bien. En tout cas, pour moi, c'était important qu'à la fin, il y ait le choix de dire « Bah non, on va pas intervenir dans l'endroit un peu sanctuaire et on va plutôt rester là où on a été bien précédemment et où on a été accueilli aussi. » C'est vrai que la question des couleurs, en tout cas, pour moi, elle est hyper importante. Déjà parce que j'adore faire de la couleur. Et donc, quand je passe à la couleur, j'ai l'impression de finir un peu la planche. Il y avait un truc qui me tenait à cœur, c'était de faire un univers de science-fiction qui se passe en extérieur, mais avec un extérieur différent. Et en fait, quand on lit quelque chose même d'aéré ou de vert et bleu, en fait, ça amène une émotion. Et c'est peut-être cette émotion-là, un peu de positif, de respiration que je voulais insuffler avec ce livre. La remarque de quelque chose de très lumineux par rapport au sombre de la SF plus classique, c'est une remarque qui revient assez souvent. Et ce que je dis à chaque fois, c'est que c'est un peu un pied de nez, mais aussi parce que je pense que la science-fiction, il y a quelque chose de très pessimiste ou un regard un peu cynique ou noir sur le monde. J'essaie de prendre ça un peu à contre-pied et d'avoir plutôt une science-fiction optimiste. Alors là, le terme à la mode en ce moment, c'est le hopecore, donc le solarpunk. Mais je pense que ça rentre dans ces catégories. Peut-être que si j'écrivais quelque chose d'un peu plus noir, à ce moment-là, j'irais moins dans ces couleurs-là. Je pense que tout ce qui a été difficile dans l'aspect technique, c'est tout ce qui est dans la ville, en fait. Ça, c'était super dur. Je ne m'attendais pas du tout à que ce soit aussi difficile. Et en termes de dessin et de justesse de dessin, parce que évidemment, je suis hyper exigeant avec moi-même et c'est absurde, il faut que j'arrête. Et aussi en termes de, donc ça rejoint un peu la deuxième partie de la question, mais en termes de d'amusement, en fait je me suis rendu compte que je m'ennuyais beaucoup à dessiner l'intérieur de la ville, même si c'est des choses que je suis très content d'avoir fait. Dès que je le pouvais, je sortais des cases de la ville parce que j'avais envie de faire autre chose, quoi. Donc ce que j'ai le plus aimé à faire, je pense que c'est le combat avec l'apparition de Ginro et le combat de Ish, en fait. La chose que j'attendais le plus, c'est tout le moment où Mima tombe dans la faille temporelle. Ça, c'est le truc que j'avais le plus envie de dessiner, et même si bien que je l'ai dessiné très tôt. En fait, je l'ai storyboardé très tôt, alors que la partie avant et la partie après n'étaient pas finies. Je l'avais en tête, donc je l'ai storyboardé. Et puis après, j'avais super hâte d'y arriver pour faire les planches. Et ça, c'est un peu mon moment préféré du livre, en tout cas celui où j'ai le plus appris dans le dessin, dans l'histoire. Ce moment où j'ai dessiné ça, ça a été un turning point un peu, quoi. Il y a beaucoup de gens qui me parlent de ces deux moments-là, quoi. Le moment Ginro et le moment du tunnel. Et je pense que ça se sent que c'est là où je me suis le plus amusé, quoi. En tout cas, le moment du tunnel, je l'avais écrit de plusieurs manières. Au début, c'était quelque chose de très physique. Je voulais qu'elle ait une immense transformation et qu'en fait, elle émerge de ce tunnel presque des années après. Et en fait, je me disais, bon, ça fait un truc trop bizarre. C'est... En tout cas, qu'elle apprenne un peu le dénouement de l'histoire, le pourquoi de son existence. À ce moment-là, pour moi, c'était fort parce que je trouve que dans la science-fiction, on a souvent ce mythe de la création, du créateur, tous les questionnements autour de l'intelligence artificielle. Je parlais de Blade Runner plus tôt, dans Ghost in the Shell, dans Akira. Et donc, en fait, moi, je voulais pas qu'il y ait cette question en suspens. En fait, elle apprend à quoi elle sert et pourquoi elle est là. Parce qu'en fait, elle est utilisée, quoi. Peut-être même que le fait qu'ils partent, c'était déjà prévu d'avance. On me pose la question de à la main ou numérique, mais en fait, c'est à la main numériquement. Sur ordinateur, il y a un truc génial qui s'appelle CTRL-Z. Et moi, ça m'a sauvé la vie parce que j'ai beaucoup, beaucoup hésité sur plein de trucs. Et le fait de pouvoir gommer, recommencer très facilement, ça, c'était un super outil. Ça me permet aussi d'aller plus vite que de travailler au crayon. Mais... pendant la fabrication du livre, j'ai énormément dessiné au crayon à côté dans des petits carnets ou des choses comme ça. Et là, de plus en plus, même c'est quasiment sûr, mes projets suivants seront au crayon, au feutre, tout ça. Parce que je pense que je me sens plus proche de ce que j'ai envie de raconter et j'ai envie de dessiner en tradi plutôt qu'à l'ordi. Je pense que grâce à ce projet et avec les années d'animation derrière, j'ai un peu fait le tour de ce que j'avais envie de faire avec un ordinateur. Je pense que l'accueil est bon. J'ai l'impression que les gens comprennent l'histoire comme il faut la comprendre et qu'ils ont des personnages préférés. Et moi, ça, c'est super parce que ça veut dire que j'ai réussi à faire des personnages qui sont suffisamment attachants pour que le public les aime, quoi. Donc ça, c'est très bien. Je suis très touché que les gens aiment ce projet parce que j'y ai mis beaucoup d'amour. Est-ce qu'il y a un message caché dans l'histoire ? Je sais pas s'il est vraiment caché. Pour moi, il y a un message important de tolérance et de vivre ensemble. Comme dans tous les contes, il y a une morale. Là, il y a une espèce de morale. J'essaie de pas être trop... rentre dedans avec ça, mais Ishimima, ils jugent personne. Et ce qui fait leur force, c'est d'accepter d'aimer tout le monde, quoi. C'est un peu porter sur le monde un regard sans haine. Alors, c'est très utopiste et idéaliste comme vision des choses, et c'est évidemment pas la réalité dans laquelle on vit. Mais en tout cas, c'est un peu le message que j'essaie de faire passer, de vivre ensemble. J'ai envie de faire une suite, j'ai envie d'en faire plus. Je pense que j'avais un peu hâte d'avoir des retours pour justement savoir ce que les gens avaient préféré ou moins aimé. Et maintenant, je sais. Et donc ça c'est très motivant, quoi, pour moi, de me dire que y a des choses sur lesquelles je peux vraiment m'améliorer et j'ai hâte de remettre le pied à l'étrier, quoi. Alors là, actuellement, je travaille sur une bande dessinée qui va aussi sortir chez Kinaï, qui est un 35 pages dans une anthologie de bande dessinée autour des robots. Et voilà, c'est là je suis activement en train de bosser dessus. Et ça sort en janvier. Alors on peut me trouver sur Blue Sky à Jules Naleb tout collé. Et sur Instagram, Jules Naleb tout collé aussi. Voilà.
C'était Ishimima, la première bande dessinée de Jules Naleb, un reportage d'Explore le Mag. À la prise de son et au mixage, Frédéric Mineur. Explore le Mag est un média en ligne. Retrouvez l'intégralité de nos reportages sur explorelemag.fr.